Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si elle était un oiseau, Élise Rousseau, notre invitée cette semaine, serait peut-être une sterne arctique, dont on a entendu le cri, le chant. Car ces sternes, aussi appelées hirondelles des mers, avec leurs calottes noires, leur long bec rouge et leur plumage blanc-gris, sont de grandes voyageuses, très endurantes, qui peuvent parcourir jusqu'à 80 000 km par an. Voyageuse, l'autrice et naturaliste française Élise Rousseau l'est assurément. Sillonnant depuis des décennies la planète à la découverte de la beauté du monde, de la nature et de ceux qui la peuplent, à commencer bien sûr par les oiseaux. Elle leur a d'ailleurs consacré plusieurs ouvrages. Mais dans son dernier récit de voyage, Mazalaï, paru en France aux éditions Albin Michel, ce n'est pas en quête d'oies des neiges, de grands tétras, de gélinottes des bois ou de pluvier guignard qu'elle est partie loin de chez elle, mais sur la piste d'un gros mammifère poilu, brun, très rare de nos jours et du genre difficile à voir. Mais je n'en dis pas plus et laisse Élise nous embarquer avec sa plume d'oiseau.
Le sable est gris, piqueté d'or, veiné de rouge, sous le soleil d'ambre du soir, dans le désert sans chevaux qui depuis longtemps a succédé, quand nous avons quitté Bayan Ondor, au steppe chéri des cavaliers. Je marche à l'est du campement, seul, dans le silence paisible, sans soupçonner encore l'aplomb minéral du vrai silence, ici, aux portes claires du désert de Gobi. Tout à coup, tombe du ciel un bruissement de plumes douces qui souffle sur mon visage. D'instinct, je recule vivement la tête et me trouve nez à nez avec un petit oiseau gris-beige en vol stationnaire face à moi qui me regarde de ses petits yeux noirs finement cerclés de blanc. Le téméraire me toise et ne s'en va pas. C'est un jeune traqué du désert. Il volette devant moi, m'observe. Suivant l'intrépide, deux autres jeunes oiseaux arrivent spontanément, curieux, et battent leurs petites ailes frémissantes à hauteur de ma tête. Toute la famille de traqués me fait la fête. Ces petits passereaux graciles sont l'un des seuls oiseaux et l'un des rares animaux capables de vivre dans ce désert immense et extrêmement aride. Le Gobi leur appartient, et je sais déjà que je n'entendrai aucun autre chant dans les jours à venir que la mélodie flûtée du traqué résonnant profondément dans le silence. Car ce n'est pas pour chercher des oiseaux que nous avons traversé la moitié du monde, la moitié de la Mongolie et la moitié du désert de Gobi. Si nous sommes là, c'est pour un ours.
Élise Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est sur la piste de l'ours que vous êtes partie au cœur du désert de Gobi, en Mongolie. Un voyage que vous racontez donc dans votre récit Mazalaï, et dont on vient d'entendre un extrait. Mazalaï, c'est le nom en fait, en mongol, de ce gros herbivore, un animal mythique aussi chez les Mongols. Parce qu'il faut le dire tout de suite, il n'y a pas que les oiseaux dans votre vie d'autrice et de naturaliste nomade. Il y a aussi les mammifères.
Oui.
Et alors pourquoi cet ours? Comment partir sur la piste de l'ours?
Alors en fait, c'est vrai que j'ai vraiment une grande passion pour les mammifères en règle générale, les animaux à poil, en plus des animaux à plumes en fait. Et les ours, en fait, j'en ai vu finalement pas mal dans mon existence. C'est vrai qu'il y a, je me dis souvent, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vu autant d'ours dans leur vie. J'en ai vu une bonne trentaine en fait, que ce soit en Roumanie, dans les Carpates, ou de Spitzberg. Alors là, c'est l'ours polaire, c'est un animal encore plus impressionnant, bien sûr, parce que l'ours polaire peut être dangereux, contrairement à notre ours brun. J'en ai vu aussi dans les Pyrénées espagnoles. Et l'ours de Gobi, en fait, c'est vrai qu'on est parti dans l'idée que cet ours était présent, mais c'était une quête un peu, comment dire, c'est un animal en fait qu'on ne voit pas en fait. Les Mongols ne le voient pas, même ceux qui travaillent à leur protection ne le voient pas, parce que c'est un animal d'une discrétion extrême. Il en reste très peu. Aujourd'hui, il en reste une cinquantaine à peu près. Ça va un petit peu mieux qu'il y a quelques années, parce que les Mongols le protègent beaucoup. Mais c'est vrai que c'était partir à sa recherche, c'était un peu partir...
vous savez, comme à la chasse aux dahus,
oui,
peut-être.
C'est ça, une quête où on ne sait pas où ça va nous mener. Et il se trouve, il y avait quand même quelques petits oiseaux à voir dans ce désert. Donc voilà, on est parti là-bas.
Alors, je ne sais pas si c'est une quête aussi difficile, symbolique ou évanescente, mais vous dites aussi dans votre livre que vous êtes partie aussi en quête de vous-même.
C'est ce qui s'est passé. En fait, ça m'a importé un peu plus loin que ce que j'avais prévu, effectivement, parce que j'ai découvert dans ce désert un silence et une solitude auxquels je à la fois je m'attendais et à la fois dont je ne soupçonnais pas en fait la force.
Et c'est quoi cette force du désert, justement ?
C'est cette force, en fait, du silence et de la solitude. C'est vrai que dans nos pays, en fait, très, très peuplés...
Occidentaux, oui, notamment.
Occidentaux, peuplés par les humains, mais aussi très, où la nature est quand même omniprésente malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours le vent qui bruisse dans les arbres, qui fait bouger les feuilles. Il y a toujours un oiseau qui chante. Il y a toujours, en fait, des petits bruits. Même la nuit, en fait, il y a quand vous écoutez une nuit de printemps, c'est très... à la campagne, c'est plein de grenouilles, c'est plein d'animaux, il y a le chevreuil, il y a le renard, il y a beaucoup de bruit finalement, on ne se rend pas compte. Et dans ce désert-là, c'était vraiment silencieux, on avait juste nos petits bruits humains en fait, de l'équipe, en fait, puisqu'en fait on suivait une équipe mongole qui protège l'ours de Gobi et on a eu la chance en fait, qui nous laisse les accompagner dans le relevé des pièges photos qui leur permettent de surveiller cette population d'ours. En fait. Donc c'est vrai qu'on est aussi parti là-bas du fait d'une opportunité, en fait, de cette chance de pouvoir les suivre. Et alors j'étais déjà allée dans des déserts, je suis allée dans pas mal de déserts même, mais ce désert de Gobi, qui est un désert vraiment extrêmement minéral en fait, c'est vraiment cette expérience d'un silence et d'une solitude auquel j'avais jamais été confrontée de ma vie. Et ça, c'est une expérience forcément un peu initiatique, oui.
Parce qu'on parle, en parlant du Gobi, de 1 300 000 km carrés, un désert effectivement de pierre, un lieu stérile, aride, hostile peut-être aussi parfois.
Le désert de Gobi est un immense désert, un vaste désert. C'est un désert désagréable. Je m'explique, je veux dire que, après avoir erré dans le désert de Libye, avoir erré dans le désert de Sinaï, par exemple, j'en conserve une image chaude, violente. J'en conserve l'appel, la sonorité aussi en même temps. Et la sensation aiguë qu'au-delà de cette morne et implacable nudité, il y a la vie quelque part plus loin, qu'il suffit de continuer pour l'atteindre, et que cette image que j'ai devant les yeux, qui m'imprègne finalement, je peux la rejeter, la refuser, la repousser, si je persévère. Il y a une douceur, une mollesse dans les déserts méditerranéens que l'on ne retrouve pas dans le désert de Gobi, qui est un désert dur, méchant, qui est un désert angoissant. Est-ce parce qu'il est bordé par des montagnes déchiquetées ? Peut-être. Je crois que ça tient surtout d'abord au vent incessant, le même qui balaye toute la Mongolie qui descend de l'océan glacial arctique, avec l'absence aussi, et c'est peut-être encore une raison, de toute végétation, il n'y a pas là la trace d'un palmier, par exemple. Avec le froid aussi, parce que c'est un désert froid. Le vent mord, le vent râpe, le vent attaque continuellement. Cela donne au désert de Gobi une détresse sauvage qui pèse. C'est le premier désert malheureux que j'ai rencontré.
Élise Rousseau, dans cet Archivina de 1966, l'écrivain nomade français Pierre Rondière vient de parler du fait de persévérer dans le désert en allant chercher la vie quelque part plus loin. Alors ça, il en parle pour les déserts plutôt chauds, méditerranéens. Et puis il dit que dans le Gobi, ça ne s'est pas passé. Il n'a pas trouvé justement cette persévérance, en tout cas cette vie. Et vous pourtant, vous êtes allé chercher là-bas la vie. Et puis je vous ai vu en écoutant quand il disait que c'était un désert de détresse, malheureux. Vous avez dit non.
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 Non, non, mais je pense qu'après, vous savez, dans les expériences, on n'est pas obligé d'aller dans des déserts pour avoir des expériences un peu initiatiques ou très fortes. Ça peut être dans une vie, ça peut être des choses beaucoup plus de proximité. Mais moi, bon, il se trouve que moi, c'est vrai que c'est dans ce désert-là que j'ai vécu vraiment quelque chose de très fort. Et je pense que dans ce genre de situation, chacun y apporte ce qui est là peut-être à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'équipe avec laquelle j'étais, j'ai bien senti que certains coéquipiers trouvaient ce désert effectivement angoissant, trouvaient ce silence angoissant parce que c'était extrêmement minéral, c'était extrêmement vide.
Vous dites que ça ressemble à la Lune.
Oui, c'est ça. Ça pourrait être la Lune ou Mars, j'imagine. Alors, il se trouve que le désert de Gobi est quand même très grand. Donc, il y a une variété
de paysages.
Il y a des parties du désert qui sont beaucoup plus riantes, si on peut dire. Enfin, en tout cas, beaucoup plus avec un peu plus de végétation, une végétation sèche. Mais cette partie minérale, c'est vrai qu'on peut. Et puis, c'est aussi un désert qui est bourré de tiques, il faut le savoir. Donc, oui. Ça, c'est pas drôle du tout.
Vous en parlez dans votre récit.
Voilà, j'en parle beaucoup parce que ça m'a marqué. Donc, oui, c'est un désert extrêmement hostile. Je ne vous recommande pas d'aller dans le Gobi pour des vacances, c'est sûr. Mais pour autant, dire que c'est un désert malheureux, je ne suis pas sûre, dans le sens où moi, en tout cas, j'y ai vu malgré tout des animaux. J'y ai vu des points d'eau. Et donc, si on trouve le point d'eau, tout de suite, il y a des oasis. J'ai vu des peupliers rares, j'ai vu une fauvette rare, j'ai vu ces fameux traquets du désert dont je parle au début. Et puis dans le sol, il y a des petites bêtes aussi, il y a des solifuges, il y a des araignées. La vie, même dans le plus aride d'aride, elle existe en fait. Et moi, c'est ça qui m'a frappée, c'est de se dire, la vie, elle est partout. Et surtout, la beauté du monde. Moi, j'ai vu des paysages et des arcs-en-ciel dans ce désert, d'une beauté extraordinaire. Et cette beauté, elle existe même dans les lieux les plus hostiles de la Terre. Et c'est extrêmement rassurant, au contraire. Et moi, au contraire, ce que j'ai trouvé dans ce désert, c'est une profonde sérénité. Et à quel point le silence, finalement, c'est quelque chose de plein et pas de vide, en fait. Et j'ai trouvé ce désert profondément réconfortant, au contraire. Et moi, il continue de m'habiter, de m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours, j'en suis sûre.
Avec une nature, vous l'avez dit, qui reste quand même discrète.
Bien sûr.
Ce qui fait qu'en fait, il faut quand même être en éveil, oui. Attentif à tout ce qui
bien
vous entoure.
Sûr.
Et c'est vrai que c'est une vertu, en tout cas un rapport au monde que vous défendez dans votre récit. Et puis que vous semblez avoir aussi aiguisé durant toute votre vie, cette attention à votre environnement. Donc ça veut dire qu'il faut déjà se taire, peut-être quitter le groupe et justement rejoindre ce silence. On en a besoin pour regarder autour de soi.
Oui, et puis la capacité à s'émerveiller de cette vie qui justement est capable de naître. On est dans un monde où les questions environnementales sont très anxiogènes. La question même de notre futur d'humain avec ses menaces de guerre, parfois ses menaces nucléaires, ces choses qui nous font très peur. Et quand on va dans un désert aussi extrême, ce qui peut être aussi le cas des déserts froids, comme
l'Antarctique,
etc., la vie quand même arrive dans par exemple, ces petites micro-oasis, ces tout petits points d'eau qui existent dans le désert, qui sont minuscules, c'est des filets d'eau. On arrive quand même à avoir de la vie, des petits papillons bleus qui arrivent à volter autour de ça. Mais ça, c'est une merveille absolue. On se dit, mais la vie, en fait, arrive à vivre de peu si on la laisse tranquille. Et c'est, moi, je trouve ça profondément rassurant, en réalité, oui.
Et vous dites que vous faites partie, dans votre récit, vous faites partie des gens du silence. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous écoutez surtout, vous parlez moins ?
Ça, dans les relations humaines, oui, j'ai souvent... Oui, on me dit parfois que je suis un peu taiseuse, ça arrive.
Mais, ça s'entend.
Mais voilà, non, mais si je peux aussi... j'ai un besoin, comme tous les humains, j'ai besoin fortement de sociabilité. J'ai beaucoup d'amis, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que j'ai besoin aussi de moments de retrait, de moments de silence. Et ce silence, effectivement, du Gobi, j'ai trouvé ça... J'ai vu en fait à quel point c'était, même au point de vue, je pense, du cerveau. En fait, j'ai mon éditeur justement m'a fait lire après un livre qui m'a permis de mieux comprendre cette expérience du silence qui explique, en fait, ça s'appelle Cerveau et silence. Et c'est un neurologue, je crois, qui explique comment en fait le silence provoque des ondes de réparation au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le silence nous répare, en fait, nous fait du bien. On a besoin, en fait, en tant qu'être humain, parfois de moments de silence. Et c'est pour ça que les gens qui vivent dans des environnements bruyants en souffrent tellement, en fait, et sont si malheureux quand il y a trop de bruit. Parce que, en fait, on a besoin de ces moments de silence et de solitude, tout simplement, pour cérébralement, tout simplement. Et ça crée des ondes positives dans notre cerveau, manifestement.
Bon, on va se taire un petit peu, nous aussi, Élise Rousseau, et on va voyager cette fois en musique avec la chanteuse Sainko Namchilak. Cette enfant de nomade a grandi tout au nord de la Mongolie, dans la petite république de Touva, située dans la Grande Fédération de Russie. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une adepte du chant diphonique mongole, qu'elle mêle au jazz et à d'autres influences. Elle s'inspire d'ailleurs beaucoup de la nature et des chants d'oiseaux. Et ici, dans Nomadic Mood, elle est en duo avec les Touaregs de Tina Riwen, voyage d'un désert à l'autre.
Mm-hmm. la 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 la.
Élise Rousseau, on a parlé de désert, de silence et de quête de soi, mais il faut quand même le redire, et puis vous l'avez déjà dit, mais vous n'étiez pas seule dans ce voyage. Est-ce qu'on peut faire les présentations, il est peut-être temps en tout cas, de votre équipage, oui, à la fois mongol et français dans ce grand voyage dans le désert de Gobi? Qui est-ce qu'il y avait avec vous?
Dans l'équipe française, il y avait des ornithologues, des photographes. Et ce qui est rigolo, et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on était plusieurs en fait écrivains naturalistes. Donc il y avait Pierre Cabard notamment qui a écrit l'étymologie des noms d'oiseaux, un livre que j'adore. Il y avait Philippe Dubois qui a écrit aussi plein d'ouvrages sur les réchauffements climatiques et les oiseaux. Donc moi j'étais là. Et notre chef d'expédition mongole, Terbiche, dont je parle dans le livre, et aussi quelqu'un qui a écrit un guide des grenouilles et des lézards en mongol. En fait, c'est ce qu'on appelle un herpétologue en termes naturalistes, c'est un spécialiste des reptiles. Donc c'est le spécialiste des reptiles mongols. Il est professeur à l'université de Ulaanbaatar. C'est un peu l'Indiana Jones mongol, moi je l'appelle pour le faire rire. C'est un aventurier, c'est quelqu'un de fantastique. Et puis il y avait
le garde de la réserve.
Voilà, le garde aussi.
Aussi,
celui donc justement qui nous a permis de le suivre dans son relevé des pièges photos. Donc c'est lui aussi qui était capable de nous guider dans le désert, hein, parce qu'il faut connaître les lieux pour pouvoir y aller de façon sécure. Enfin, sécure entre guillemets, parce qu'il faut mieux pas avoir un souci de santé là-bas, parce qu'on est quand même très très loin de tout. Mais bon, en tout cas, lui, il connaissait Nyamangar, tout le circuit à faire. Puis après, il y avait les chauffeurs qui sont des chauffeurs extraordinaires, parce qu'ils conduisaient des petits camions russes de l'époque soviétique sans doute. Mais en fait, c'est mieux de partir dans le désert avec presque des vieux engins qu'on est capable de réparer, de démonter, qu'avec des engins électroniques finalement.
Oui, ça arrive souvent. On les voit souvent, en tout cas, on les imagine quand on vous lit, souvent le nez dans le capot du camion.
Ils étaient assez occupés en mécanique, mais c'est des conducteurs. Mais moi, je me dis, mais ils seraient capables de faire des courses automobiles, des rallyes, tout ça, parce qu'ils étaient capables de conduire dans des conditions complètement folle, dans le sable, dans les cailloux.
Finalement. Et puis aussi à se repérer sans aucun GPS. Et c'est vrai, oui, que dans votre récit, on voit l'admiration, oui, quand même que vous avez pour, oui, eux. Sur le fait aussi que ces Mongols, finalement, font corps, oui, avec la Terre, oui, à force de la parcourir. Alors, historiquement à cheval, oui, il y en a toujours qui montent. D'ailleurs, oui, je crois savoir que quand même tous les Mongols savent monter à cheval.
Quasiment. Et puis là, dans des vieux... de l'Ulaanbaatar.
Oui, c'est ça. Et puis là, dans des vieux camions russes. Oui. Et ça vous a marqué?
Le sens de l'orientation, c'est-à-dire que c'est vrai que nous, on est quand même très vissé à nos GPS. Maintenant, même pour faire des petits trajets, des fois, on a tendance à mettre le GPS tout le temps.
Et ça renvoie aux oiseaux, ça aussi.
Et bien sûr, les oiseaux sont capables de grandes migrations. Mais les humains, en fait, on a plein de sens liés à la nature qu'on est en train d'atrophier, en fait, mais on est censé survivre dans la nature. À la base, c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'ici. Et effectivement, bon, les Mongols avec qui on est parti, c'est pas n'importe quel Mongol non plus, hein. C'est bien sûr des naturalistes aguerris, etc. Mais c'est aussi des enfants de la steppe, c'est-à-dire que c'est des enfants de même si Terbiche est professeur d'université à Ulaanbaatar, c'est quelqu'un qui est né dans le Gobi, c'est quelqu'un qui vient d'une famille nomade. Donc ils ont quand même ancré en animaux, effectivement, c'est cette notion de l'orientation, puis cette habitude, depuis qu'ils sont tout petits, à être capable de lire le paysage dans des conditions extrêmes, parce que l'hiver en Mongolie est dur. Vous voyez, par exemple, ils sont capables, nous on n'y arrivait pas, mais ils sont capables de repérer des animaux à l'œil, hein, sans lunettes ni rien, sans même jumelles. Rien qu'à l'œil, ils peuvent voir des animaux très très loin. Et nous, avec nos yeux d'occidentaux, pourtant on est naturalistes aussi, on a l'habitude d'observer la nature et les animaux, on n'arrivait pas à voir et on disait, mais ils ont une meilleure vue que nous. Mais je pense qu'ils ont en fait une acuité qui est liée au fait qu'ils n'ont pas perdu en fait le sens de l'observation de leur environnement.
C'est la fameuse attention dont on parlait.
Ouais, et ça vraiment c'est vrai que c'est quelque chose de super de se rappeler en fait que les humains ont cette puissance en fait d'adaptation à la nature et que nous dans nos vies occidentales, dans nos vies urbaines, voilà, on se coupe un peu de nos sens profonds.
Alors, en début d'émission, je vous comparais à la Sterne arctique. Je ne sais pas si la comparaison vous va, mais en tout cas, ça veut dire quand même que vous avez beaucoup voyagé, ce qui est vrai quand on se penche. Même quand on vous lit, vous faites référence à beaucoup d'autres voyages et à beaucoup d'autres animaux, parce que vous êtes allé en Mongolie déjà plusieurs fois. Vous êtes allé en Jordanie, vous avez croisé des loups, en Corée, vous avez croisé des pygargues aux États-Unis pour observer des oies des neiges. Il y a aussi des colibris dans le Pantanal, des quetzals au Costa Rica, et puis des ours, vous en avez parlé, en Roumanie. Je me demandais quelle place occupe le voyage dans votre vie, Élise Rousseau.
Le voyage, pour moi, c'est toujours un rapport un peu complexe, parce que souvent, je me dis, non, mais j'ai un peu peur, en fait. Je suis quelqu'un, je le dis d'ailleurs dans mon livre, je suis quelqu'un d'assez peureux, finalement. Et je... oui, alors mes amis me disent, mais tu te dis que t'es peureuse, mais tu fais des trucs que nous, on ferait pas.
Mais tu vas dans le désert de Gobi, sur la piste d'un
mais dans les fêtes, avant d'y aller, je me dis, mais pourquoi j'y vais? Souvent, j'en ai discuté avec d'autres voyageurs, en fait, ça arrive souvent qu'on ait peur, parfois, de partir en voyage, mais on le fait quand même. En fait, ce que j'aime dans le voyage naturaliste, bien sûr, il y a les animaux qu'on cherche, mais c'est aussi le prétexte à partir hors des chemins battus et faire des rencontres humaines aussi qu'on ne ferait pas dans les circuits touristiques habituels. Après, j'aime bien aussi visiter les choses culturelles, etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans les voyages, tout de suite, l'aventure, mais on peut le faire aussi en France, tout près de chez soi, si on commence à sortir des sentiers battus. En fait, c'est les quêtes de nature, d'animaux ou de ces choses en fait qui nous font partir finalement ça voilà c'est on rencontre d'autres passionnés c'est toujours le voyage où ça peut être aussi la même chose quand on est amoureux de chevaux et qu'on voyage qu'on va rencontrer d'autres cavaliers ou dès qu'on rencontre des gens qui sont passionnés de la même chose dans d'autres pays on est tout de suite rassemblés par les choses qui nous passionnent et c'est vraiment des très belles rencontres en fait
ça rapproche
oui
et qui sait peut-être est-ce que vous avez aussi poussé le voyage je ne sais pas jusqu'au Sénégal en oui. Casamance alors on va écouter
alors pas en Casamance mais au Sénégal oui.
Eh bien, on va vous envoyer en Casamance. On écoute tout de suite un extrait de notre reportage dans la réserve ornithologique de Calissaye, située donc en Casamance. Un voyage de Raphaël Constant, parti en 2022, pour Si loin, si proche.
Courli Courli 25, Pélican Gris 6, Sterne Caspien 2, Aigrette Dimorphe 1, Héron cendré 2, Spatule d'Europe 3, Spatule d'Afrique 4, Ibis sacré 5, Grande aigrette 10, Aigrette gardette 25.
Jean, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Je suis en train de dénombrer les oiseaux qui résident actuellement au niveau de l'héronnière de Cassel. La quasi-totalité des espèces sont déjà sur le terrain pour la recherche de la nourriture. L'activité du suivi des oiseaux permet au moins aux agents de la réserve ornithologique de Calissaye de savoir quelles sont les espèces qui sont présentes et à quel moment. Ça, c'est un pélican qui vole.
Qui vient de faire un tour au-dessus de nos têtes. Voilà. Il est immense.
Voilà, voilà. Il y a d'autres qui ne sont pas encore partis pour la recherche de la nourriture.
Là, les oiseaux en face de nous se sont perchés dans les arbres de la mangrove à l'ombre.
Oui, il y a des nids qui sont formés. Quand tu regardes très bien avec les jumelles, tu verras qu'ils ont constitué des nids sur la mangrove. Et c'est là où ils se reproduisent. Ce sont les seuls oiseaux rares qui s'y reproduisent, surtout les pélicans. Ils peuvent se reproduire sur la mangrove comme ils peuvent se reproduire à bas le sol. Ils se reproduisent ici parce qu'ils savent que la réserve est un site poissonneuse. Et ici, au niveau de l'héronnière de Cassel, comme dans le site sablonneuse de Sankoy où ils font la reproduction, la sécurité est totale.
observer, recenser, dénombrer, cocher aussi. C'est le lot de tout ornithologue qui se respecte. Sachant que vous, Élise Rousseau, vous qui êtes une bird watcheuse, alors c'est le terme en anglais, une observatrice d'oiseaux, une passionnée, vous voyagez toujours avec votre précieux carnet, on va en parler, qui renferme la liste des oiseaux du paléarctique occidental, c'est ça ?
Oui.
Parce que vous en parlez dans votre livre. Alors c'est quoi cette liste et aussi c'est quoi une coche ?
Alors bon, ça c'est le côté un peu anecdotique et amusant.
Mais quel air important quand même hein, chez les observateurs d'oiseaux ornithologues ?
Alors ça dépend lesquels, hein, parce que c'est, comment dire, le fait d'avoir cette liste et de s'amuser à mettre une coche à chaque fois qu'on a vu une nouvelle espèce.
Une croix.
Je vois ça comme un jeu. Alors ça dépend. Effectivement, il y a certains collègues qui prennent ça très très au sérieux et pour qui c'est pas un jeu du tout, pour qui c'est d'une haute importance. Mais vous savez, c'est comme tous les peuvent passionner. Après, ça dépend de quelle mesure on met dans les choses. Aux États-Unis, par exemple, paraît-il que ce sont de fieffés cocheurs, c'est-à-dire qu'ils sont fous de listes. Alors, après, il y a des gens qui font des listes de tout. Ça va être la liste des oiseaux qu'on voit dans son jardin, ça va être la liste des oiseaux qu'on voit dans l'année. Moi, j'ai juste une liste des oiseaux du paléarctique occidental qui est, je pense, très mal tenue d'ailleurs, parce que ce que je raconte dans le livre, d'ailleurs, des fois, je marque dans cette liste des oiseaux que j'ai vus, qu'on peut voir dans le paléarctique occidental, mais que j'ai vu ailleurs. Enfin bon, bref, c'est. Mais voilà, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien cette liste. J'aurais pas du tout envie de la perdre.
Parce que c'est une zone géographique qui va du nord du Sahara à l'ouest de l'Oural, avec l'Europe et le Moyen-Orient à l'intérieur.
C'est la liste qu'on a souvent quand on est en Europe, quoi. C'est notre liste à nous.
Sauf que vous l'emmenez en Mongolie.
Oui, ok, hors paléarctique.
C'est un peu hors
paléarctique occidental. Donc c'est le paléarctique oriental en fait. Mais
voilà. On sent que ce carnet, c'est presque comme un talisman. On a l'impression que vous emmenez finalement les autres oiseaux que vous avez croisés avec vous.
Oui, ça
en
permet.
Voyage.
En fait, alors il y en a qui prennent ça pour un jeu. Il y a certains ornithologues que ça agace que d'autres ornithologues prennent ça si au sérieux. Moi, je trouve qu'il y a une petite dimension poétique, en fait. C'est-à-dire, ça permet de se rappeler que un peu des oiseaux qu'on a vus, ça permet de se dire, tiens, j'en ai vu tant, finalement, c'est pas mal. Ça permet aussi de se donner des petits challenges. Par exemple, tiens, cette espèce-là, j'aimerais bien la voir un jour. Donc voilà, c'est une façon un peu de rêver. Après, chacun vit ça comme il le veut. Mais c'est vrai que chez les ornithologues, la liste a son importance. On peut pas le nier.
Et il y a des gens comme ça qui ont vu tous les oiseaux, les 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde.
Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, c'est quasi impossible.
On ne peut pas en une vie.
D'abord, il faudrait être très riche, puis faire que ça, en fait. Hein. Bon, faudrait être rentier et passer sa vie à voyager, à chercher les oiseaux, j'en sais rien.
On va continuer de parler des ornithologues, de cette drôle de famille qui est un peu la vôtre, une drôle de famille d'oiseaux, j'ai envie de dire. Mais tout de suite, c'est Marion Rampal et Bertrand Belin qui nous offrent de beaux dimanches sur RFI.
Où partait l'aurore dans ses bas gris, dans ses eaux bleues? Mon s'accrocher à l'arbre, ma vie m'a prise. Je suis au fer, presque à ton bras, deux pas pour le bas, trois sur le côté. Passer lentement sous le ciel qui change ses habits sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche. 12 heures puis le reste, on nous s'attoure à travers temps. Pourquoi le jour m'empêche, un joli chien qui tôt matin me mord le bras, les yeux, les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle. Ça n'était qu'un jour.
parallèles.
Les suivre jusqu'au ciel.
Et tourner mon ombrelle.
Ce n'était qu'un doux rêve. Sans faire de beau dimanche. Sans faire de beau dimanche. Sans faire de beau dimanche.
Si loin, si proche. Écoutez, vous voyagez.
Pour moi, la vraie, la seule musique a toujours existé dans les bruits de la nature. L'harmonie du vent dans les arbres, le rythme des vagues de la mer, le timbre des gouttes de pluie, des branches cassées, du choc des pierres, des différents cris d'animaux sont pour moi la véritable musique. Si j'ai choisi pour maître les oiseaux, c'est que la vie est courte et que noter des chants d'oiseaux est tout de même plus facile à un musicien que la transcription des harmonies du vent ou du rythme des flots.
À si loin, si proche, les oiseaux continuent de bercer et d'inspirer notre voyage, comme ils ont inspiré par exemple à travers le temps les artistes, les écrivains, les musiciens, comme le compositeur français Olivier Messiaen qu'on vient d'entendre. Élise Rousseau, notre invitée, n'est pas musicienne, quoique, je ne sais pas. En tout cas, elle n'est pas compositrice. Mais je peux vous parier qu'elle saurait reconnaître les yeux fermés le chant d'une fauvette babillarde. Non, me dit-elle, ou d'une chouette chevêchette, même pas.
Chevêchette, oui.
La chevêchette, peut-être. En tout cas, les oiseaux, et plus largement les animaux, occupent une place centrale dans votre vie, Élise Rousseau, comme dans vos voyages. Et dans votre dernier récit, Mazalai, vous nous emmenez en Mongolie, alors sur les traces d'un ours, mais aussi de pas mal d'oiseaux. Parmi eux, j'en ai parlé, la fauvette babillarde, que vous êtes allé chercher avec l'ornithologue français Philippe Dubois, jusque dans ce désert de Gobi, dans un oasis. Alors, je ne sais pas si je vais bien dire le nom, Charles Kuls.
Charles Kuls, oui.
Voilà. Et alors, la vue, la vision et même l'enregistrement de cet oiseau par Philippe Dubois, vous le décrivez comme un moment historique pour lui.
Oui, c'est pour ça que je vous dis que je n'aurais pas pu reconnaître le chant de cette fauvette babillarde de l'oasis de Charles Kuls, parce qu'elle, en fait, elle n'avait jamais été enregistrée auparavant, en fait. Hein, donc il l'a enregistrée, effectivement, il était très heureux de l'enregistrer. C'était une première.
Mais vous avez de la distance par rapport à ça. C'est qu'à la fois, vous expliquez à quel point pour un individu, un ornithologue réputé comme Monsieur Dubois, c'est un moment historique. Alors qu'en fait, vous êtes au beau milieu de nulle part, dans une petite oasis, il y a ce petit oiseau, et juste vous l'écoutez, vous l'enregistrez.
Oui.
C'est un certain sens de l'histoire, mais c'est beau, c'est oui. Ça cette poésie
oui.
Aussi peut-être.
Bah, c'est-à-dire, en fait, c'est toujours la question, c'est-à-dire que quelque chose qui est très important pour un spécialiste de quelque chose, comme l'ornithologue Philippe Dubois, bien sûr, la majorité des gens savent à peine ce que c'est une fauvette. Donc bien sûr, mais c'est le cas dans toute science, en fait. Hein, y a plein de découvertes qui ont lieu où dont les gens ne se rendent pas compte de l'importance, en fait. Moi, cette fauvette, mon rôle à moi, c'était de la photographier, en fait. Hein, c'était pas de l'enregistrer. Et c'est vrai que c'est très émouvant, en fait, de voir ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce petit oiseau qui ressemble à pas grand-chose, qui est tout petit et qui chante comme ça au plein milieu du désert, comme son collègue le traqué du désert aussi. C'est extrêmement émouvant, en fait, parce que c'est un oiseau qui s'est adapté juste à ces petites conditions.
Cette petite poche,
voilà,
de nature.
Poche de vie. Et moi, ce que je me dis, c'est si admettons là, qu'il y a une catastrophe, que, comme on nous en prédit parfois, pour les humains, en fait, finalement, bah, peut-être que dans ces petites oasis minuscules, il y aura toujours de la vie qui pourra repartir, parce qu'il y a des petits oiseaux, il y a des papillons, il y a des panthères des neiges, il y a quand même des choses au fin fond du désert de Gobi, dans les abysses aussi, dans les océans. Il y a de la vie, en fait, il y a de la vie dans les glaces. C'est étonnant, en fait, notre planète, elle est quand même assez merveilleuse.
Et on ne la connaît pas complètement.
Non.
C'est ça aussi, il y a cette idée d'inconnu encore,
oui.
Possible et permis. Sauf que plus on avance et plus on essaie de connaître, parfois aussi, plus on exploite et plus on saccage.
Oui, Le gobi, la question, bien sûr, qui peut se poser, c'est les ressources minières. Hein. C'est le risque. Parce que c'est vrai que pour le reste, il n'y a rien qui puisse intéresser les humains. C'est vraiment un vaste tas de cailloux bourrés de tiques et au climat extrêmement ingrat. Donc les humains n'iront pas si rien ne les y intéresse. Mais les ressources du sous-sol, ouais, c'est toujours la question. Tout peut être détruit, tout peut être pollué en réalité. C'est ça qui est terrible, oui.
Revenons à notre fauvette babillarde, un oiseau, des oiseaux qui ont beaucoup à nous apprendre. On va écouter justement l'ornithologue Philippe Dubois à ce sujet dans une archivina France Culture datant de 2022.
C'est vrai que c'est une science, l'ornithologie, mais il me semble que pour les gens qui ne vont pas faire d'études scientifiques ou qui ne vont pas faire de l'ornithologie leur métier, j'aurais tendance à leur dire observez les oiseaux juste pour le plaisir de les observer et essayez encore une fois, à chaque fois que vous les observez, d'en tirer une petite leçon de sagesse. Voilà. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est primordial, c'est d'avoir toujours un... Si vous voulez, on ne vit pas avec les oiseaux, on vit auprès des oiseaux. Donc ce respect, cette modestie, cette discrétion, et qui finalement nous permet d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, je pense que les oiseaux nous aident aussi dans ces moments très perturbés. C'est d'ailleurs un sujet que je travaille avec Élise Rousseau. Mmh. C'est que les oiseaux peuvent être une source de bien-être, absolument. C'est une thérapie. L'ornithologie, c'est une thérapie, surtout dans un monde compliqué, difficile, incertain. Observer les oiseaux, ça vaut largement, mais je peux vous dire, ça vaut largement des séances de psychothérapie, même si ça peut être très, très, très utile, des séances de méditation. C'est tout à la fois. À travers des petites choses, il y a toujours une morale dans le bon sens, hein, dans le sens philosophique, qui nous permettrait, si on écoutait plus les oiseaux, en fait, je pense qu'on serait plus sage. Voilà.
Élise Rousseau, en 2018, vous avez écrit à quatre mains et publié un ouvrage avec Philippe Dubois qui s'appelle « Une petite philosophie des oiseaux », qui est d'ailleurs devenu un best-seller, on peut dire, traduit en 21 langues. Et on y retrouve une vingtaine à peu près de petites leçons de vie tirées du comportement, j'ai envie de dire même presque de l'existence des oiseaux. Lesquelles, par exemple, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes de ces leçons de vie et puis cette philosophie finalement qu'on a à tirer de ces oiseaux?
Alors c'est vrai qu'en fait on s'était amusé à faire un parallèle en fait entre les oiseaux et nous, c'est-à-dire que on doit se rappeler déjà aussi que nous aussi on est des animaux faisant partie du vivant, donc c'est vrai qu'on a
mais qu'on n'est pas tout au-dessus.
Oui, puis c'est-à-dire qu'on oublie qu'en fait on partage quand même beaucoup avec les animaux. Hein. Il y a des émotions archaïques, par exemple la peur. Il y a plein de choses en fait.
La défense de territoire.
Oui, il y a plein de choses où il y a des parallèles en fait à faire avec les animaux. Bon, les leçons de vie, moi je trouve que la leçon de vie principale que moi m'apporte au quotidien l'observation des animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, c'est vraiment ce carpe diem, c'est cet ancrage dans le temps présent qu'on a tellement de mal en tant qu'être humain. Nous, faut qu'on fasse des méditations, faut qu'on fasse du yoga, faut qu'on fasse du bouddhisme, faut qu'on fasse des grandes réflexions philosophiques pour arriver à s'ancrer dans le présent. Le carpe diem, c'est compliqué pour nous, alors que les animaux, ils sont tout le temps en fait dans l'instant présent, dans le plein ressenti de leur environnement, dans la pleine observation de leur environnement.
La pleine conscience, on appelle ça aujourd'hui.
C'est ça, oui, exactement. Et je crois que les animaux sont de fait en pleine conscience tout le temps, en fait. Et alors, bien sûr, c'est aussi ce qui peut les limiter aussi par rapport aux humains qui, nous, sommes capables, effectivement, de faire aussi avec notre passé et notre futur en permanence. Mais en même temps, je pense qu'effectivement, pour se lâcher prise, quand on voit, effectivement, une poule qui prend son bain de poussière, ou ça peut être aussi certains oiseaux, là, justement, dans les aires de Gobi, c'était on voyait le cirapte paradoxal, justement, des fois, j'en ai vu un qui se dorait le plumage au soleil. Voilà, ils sont dans un bien-être qu'on sent vraiment absolu. Ils sont bien, quoi. Et là, c'est ce carpe diem de se dire, voilà, être capable aussi nous de prendre ces temps, en fait, de rien faire. Là, on manque un peu de soleil en ce moment, de prendre un petit rayon de soleil et de se mettre à lézarder un peu dehors. Là, juste profiter, en fait, du bonheur que nous offre la vie, en fait.
Alors si les oiseaux ont beaucoup à nous apprendre, encore faut-il déjà savoir les écouter, mais aussi pouvoir les écouter, les observer, sachant qu'aujourd'hui on assiste à une extinction. Je quitte un peu la partie, comment dire, bien-être et temps présent pour entrer dans le futur et même déjà dans le présent, autour de cette disparition spectaculaire des oiseaux à travers le monde, en France comme ailleurs. On va écouter l'ornithologue français, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, Frédéric Giguet, dans une archivina France Inter datant de 2022.
Depuis 1989, on a perdu en France à peu près un tiers des oiseaux des milieux agricoles. Les alouettes, les tourterelles des bois, les perdrix sont des espèces qui sont en déclin, dont on perd chaque année 1 ou 2% des effectifs. Alors on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'on ne se souvient plus, quand on était jeune, de combien d'alouettes on entendait quand on allait dans un champ, etc. Mais finalement, si on se focalise sur des espèces peut-être un peu plus emblématiques, comme les hirondelles ou comme le coucou, finalement, on n'entend plus de coucou. On a perdu à peu près un quart des coucous chez nous. C'est une des espèces qui est en déclin marqué. Et puis la particularité supplémentaire du coucou, c'est que la femelle de coucou pond un œuf dans le nid d'une autre espèce et n'élève pas son poussin. Si vous avez des femelles de coucou, par exemple, qui étaient spécialisées sur les rouges-gorges, et je ne ponds mon œuf que dans des nids de rouges-gorges, avec les changements climatiques, les printemps sont de plus en plus précoces en Europe et quand les coucous arrivent de migration, les rouges-gorges ont déjà pondu leurs œufs, donc il est trop tard pour que ces femelles puissent pondre un œuf dans un nid de rouges-gorges. Ben effectivement, ces femelles-là ne vont pas avoir de descendants, ou beaucoup moins, et vont petit à petit disparaître des populations.
Élise Rousseau, on a entendu parler de printemps précoce. J'ai envie d'ajouter aussi printemps silencieux. Petite référence à Madame Carson, lanceuse d'alerte en son temps, une Américaine autour justement de la disparition de ces champs dans les campagnes. Quand vous entendez ça, quand vous entendez Frédéric Giguet, qu'est-ce que ça vous fait, à vous qui vivez avec les oiseaux?
Alors, ce que dit Frédéric, tous les ornithologues, tous les naturalistes le savent depuis longtemps. Moi, je me rappelle, quand je travaillais à la Ligue pour la protection des oiseaux, il y a une vingtaine d'années...
C'est ça, parce qu'on ne l'a pas dit, vous avez travaillé longuement sur les rapaces à la Ligue de protection des oiseaux, avant d'écrire beaucoup d'ouvrages sur les animaux.
Et dans la protection de la nature, personne ne nous écoutait, personne ne nous croyait. En fait, on était avec nos petits oiseaux. Maintenant, là, ça y est, on est enfin entendus. Les questions environnementales sont vraiment prises au sérieux. Ce qui est nouveau, voilà, on n'est plus moqué en tant que protecteur de la nature. C'est déjà un grand pas en avant.
En même temps, on parle de 800 millions d'oiseaux qui ont disparu en Europe depuis 1980. 3 milliards d'oiseaux en moins aux États-Unis en 50 ans.
Mais c'est une catastrophe. Alors, il n'y a pas que les oiseaux. En plus, ce qui est très embêtant, c'est tous les insectes. Je ne sais pas si...
Tout est lié.
Si vous vous rappelez, avant, quand on roulait un peu en voiture, on avait plein d'insectes collés sur le pare-brise. Maintenant, c'est terminé.
En France, oui.
Il y a une disparition des insectes qui est dramatique, parce que pour la pollinisation, pour l'agriculture, ça va être un drame, en fait, à l'avenir. Ce que ça me fait, même moi, ça me fait la même chose que beaucoup de naturalistes. C'est-à-dire, ça nous a provoqué de l'éco-anxiété assez extrême. C'est-à-dire qu'on fait partie sûrement des gens qui avons été touchés le plus tôt par l'éco-anxiété, parce que l'éco-anxiété commence un peu à se répandre dans le reste de la population. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on en est conscient, qu'on alerte. Quand je dis 20 ans, même plus, pour certains. J'avais mon grand-père qui travaillait au Muséum d'Histoire Naturelle. Il expliquait déjà à son époque que là, il y allait avoir des problèmes si on continuait comme ça. Et alors, à l'époque, on l'écoutait, lui, encore moins que nous, il y a 20 ans. Mais même aujourd'hui, c'est compliqué. Même aujourd'hui, les protecteurs de l'environnement restent souvent encore moqués, décriés. On serait culpabilisant, on serait déprimant, et ceci et cela.
Anti-moderne.
On se fait censurer tout le temps. On se fait censurer tout le temps.
Et comment on gère cette éco-anxiété aussi? Puisque vous avez écrit aussi un livre qui s'appelle... Alors c'est presque comme une revendication qu'on met devant soi. L'éco-anxiété ne passera pas par moi.
Oui, j'avais écrit ça sous forme de bande dessinée avec un peu d'humour pour essayer de parler de ce sujet qui est très fort aussi chez beaucoup de jeunes.
Oui, quand on est face à l'effondrement.
Justement, c'était pour essayer de trouver des petites solutions, parce que moi, j'étais vraiment très impactée par cette éco-anxiété, et aussi parce que je vis avec un monde naturaliste et je vois autour de moi, les uns après les autres, mes amis qui sombrent dans une forme de désespoir, de déprime, de ne plus y croire. Parce que c'est aussi le problème quand ça fait des décennies qu'on se bat pour une cause et qu'on n'est jamais entendu, et que non seulement les choses ne vont pas mieux, mais elles vont pire. C'est sûr que ça peut être déprimant. On peut se dire, de toute façon, on baisse les bras, l'humanité c'est foutu, on ne comprendra rien, il n'y a rien à faire. Donc ça peut vite sombrer dans quelque chose de déprimant. Donc j'avais voulu écrire effectivement cette bande dessinée pour pour essayer de trouver des solutions, solutions aussi, comment dire, personnelles. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais moi, personne sujette à l'éco-anxiété, un peu effrayée par ce qui se passe dans le monde et le fait que on a beau tous le vouloir, en fait, parce que je pense que quand même une grande partie de la population voudrait bien qu'on protège la nature, et c'est-à-dire qu'on se protège nous-mêmes, en fait. Mais il y a quand même des blocages au niveau politique et industriel qui sont extrêmement forts. Donc, qu'est-ce que je peux faire aussi, moi, pour pas me laisser envahir par une éco-anxiété qui pourrait être paralysante et nous empêcher, finalement, de nous battre, parce qu'il faut continuer quand même à porter une voix militante, à porter cette envie de protéger la nature. Parce qu'on le voit, et je l'ai vu notamment dans la protection des rapaces que vous évoquiez, en France, la protection des rapaces a fait des choses incroyables, extraordinaires.
Donc c'est possible.
Oui, j'ai travaillé pendant des années avec un monsieur qui s'appelle Yvan Tariel qui a consacré sa vie à la protection des rapaces. Et il y a des personnes, franchement, en France qui peuvent être fières de leur travail parce que il y a des espèces d'oiseaux rapaces de nos jours qui se portent bien mieux qu'il y a 30 ans. Donc si vraiment on le fait, si vraiment on se mobilise, si vraiment il y a des lois, si vraiment c'est sérieux, on peut vraiment encore renverser les choses. Ce qui est dramatique et ce qui déprime tous les naturalistes, c'est le fait qu'on a beau le dire depuis tellement longtemps, bah ça bouge pas, en fait, ça bouge pas assez vite. Alors que si vraiment, là, tout de suite, on disait stop, on arrête de faire nos bêtises, là les humains, on protège la nature a quand même une force de vie extraordinaire qui lui permet de se régénérer si on la laisse faire, quoi, si on l'aide.
C'est un peu comme crier dans le désert, excusez-moi.
Oui.
Il y a un petit peu de ça.
C'est ça. Donc les gens qui ont beaucoup crié dans le désert ont un peu la voix cassée en ce moment. Et moi-même, des fois, j'ai envie de baisser les bras, mais en même temps, je dis faut pas qu'on les baisse. Et puis, il y a toutes les jeunes générations qu'il faut aider, parce qu'eux, ils ont envie que ça change.
Et puis, tiens, vu qu'on parle du désert, on a oublié en chemin quand même dans l'émission notre ours, ce gros bonhomme, notre ours de Gobi, qui est d'ailleurs lui aussi menacé d'extinction. Pour finir, alors, est-ce que vous l'avez vu, cet ours? Où est-ce qu'on laisse la surprise au lecteur?
Ah bah oui, il faut laisser le...
La surprise au lecteur.
Oui.
Merci Élise Rousseau.
Merci à vous.
Alors je rappelle le titre de votre livre « Mazalaï aux confins du silence sur la piste de l'ours de Gobi » paru aux éditions Albert Michel. Merci à la Sonothèque de RFI et à l'INA pour leurs archives. En ligne aussi, notez que vous pouvez retrouver la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris qui documente les sons du vivant parmi lesquels les oiseaux. Mais le mieux finalement pour les écouter, où que vous soyez chers auditeurs, allez dehors et surtout prenez le temps et profitez. Laure Allary, Céline Develay-Mazurel, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même planète. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous retrouver en ligne, en podcast, à tout moment, si loin, si proche.